question que je disais tout à l'heure.
Ouais.
Que vous êtes enseignant à la faculté, à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Et vous êtes en même temps, je vous vois sur la porte chef pharmacie, c'est ça?
Chef adjoint, oui.
Chef adjoint, ok. Mais comment vous arrivez à jumeler ces deux occupations-là?
Mais écoutez, le règlement nous dit que on a 20 heures de présence effective dans la semaine ici et 20 heures à la fac. Donc le chef, lui, il a 30 heures de présence ici, puis le reste est consacré à l'enseignement. Donc je pense qu'on peut concilier les deux, quoi. Généralement, les après, si on n'a pas cours le matin, on est à la fac les après-midi. Comme généralement là-bas, les après-midi sont consacrés aux travaux dirigés. Donc les cours le matin, on est obligé de s'absenter ici pour faire le cours là-bas.
Moi je suis étudiant en sciences du langage.
Ouais.
Je ne sais pas ce qu'on fait véritablement dans votre UFR. Donc je vais demander comme ça des informations. Dites-moi en quelques mots qu'est-ce qu'on fait à UFR des sciences
pharmaceutiques. Alors, à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, on forme les pharmaciens. Les pharmaciens dans toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'il y a au moins une quinzaine de disciplines différentes, même jusqu'à une vingtaine. Donc, il faut former les étudiants pour les former à la vie du pharmacien. Bon, il y a au moins trois... On peut appeler ça. Trois options, voilà. Il y a l'option biologie, pour former les pharmaciens biologistes. Il y a l'option officine. Il y a l'option industrie. Et puis maintenant, il y a la recherche. La recherche, l'enseignement, quoi. Ça fait environ quatre.
Un pharmacien biologique, qu'est-ce que c'est?
Un pharmacien biologiste? Ben écoute, c'est celui qui travaille dans le laboratoire de biologie, qui fait les analyses biologiques, les analyses médicales. Quand vous venez pour faire votre bilan de santé, tout ça c'est les analyses biologiques. Donc, en dehors de ça, le pharmacien c'est d'abord un homme de laboratoire, que ce soit en industrie, les fabrications, les machines, tout ça c'est les pharmaciens.
Sincèrement, je ne vois pas trop de différence, moi, à mon niveau.
Ouais.
Enfin, je ne sais pas, je ne vois pas véritablement la différence entre les études médicales, c'est-à-dire ceux qui font de la médecine, et ceux qui font de la pharmacie. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire la différence?
Mais c'est quand même différent, parce que le médecin, il travaille sur l'homme, directement. C'est un clinicien, il examine, machin, tout ça. Bon, nous, on est un peu, on vient en complément. On s'occupe plus du médicament, bon, de la biologie, comme je disais. Et puis voilà. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour consulter le malade, pour savoir de quelle maladie il souffre, machin, tout ça. Vous faites de la clinique. C'est ça la différence.
Mais un pharmacien peut quelquefois avoir des relations aussi avec les malades.
Oui, dans le cadre de la biologie et puis dans le cadre des conseils en officine. C'est-à-dire qu'on fait en fait la pathologie médicale, hein, on nous enseigne. À reconnaître les maladies et autres. On a même un certificat de pathologie médicale. Moi, j'avais fait ça à Rennes. Bon, ça ne m'a pas beaucoup servi, mais on allait consulter avec les médecins pour reconnaître les maladies, machin, tout ça, c'est très formateur. Sinon, en dehors de ça, bon, ce qu'on voit, on n'est pas souvent en contact direct avec les malades. Bon, maintenant, on fait faire les études, les stages cliniques en les étudiant pour quand même qu'ils aient quelques connaissances, mais on n'est pas des gens de la clinique. On n'est pas des cliniciens, quoi.
Est-ce qu'il arrive par moment où vous avez certaines relations, certains rapports avec les tradis praticiens, ceux qui utilisent la médecine?
Oui, on travaille beaucoup avec les tradis praticiens parce que, surtout chez nous, comme on n'a pas de grand laboratoire de chimie de synthèse, nos recherches sont tournées vers les plantes, les recettes traditionnelles. On essaie de valoriser. C'est un thème de recherche très porteur. Quoi.
Comment ça se manifeste, ces relations entre vous et les praticiens? C'est-à-dire quoi? Vous les invitez à vous dans vos locaux.
Souvent, c'est souvent des relations individuelles. Hein. Bon, moi, je travaille avec eux. Bon, quelqu'un m'a mis en contact pour en me disant que tel traducteur praticien avait telle recette pour soigner telle maladie. Bon, on discute avec eux. On essaye, et puis bon, on voit si c'est vraiment, ça peut être intéressant ou pas.
Où on peut avoir les résultats de nous, par exemple, nous les étudiants, est-ce qu'on peut avoir les résultats de vos recherches avec les candidats?
Bon, disons que, jusqu'à un certain moment, moi personnellement, avec ma formation de pharmacologue et phytochimiste, j'étais braqué dans l'optique occidentale, c'est-à-dire il faut évaluer, il faut isoler, il faut identifier avant de... Bon, tu vois, ça fait qu'on a beaucoup de résultats de recherche qui sont dans les tiroirs. Pendant que les autres bon, allaient directement au but, bon, ils ont la recette, ils ne se préoccupent même pas d'isoler les molécules. Hein. Donc ils font des tests préliminaires, toxicité, tolérance biologique. Et puis, quand c'est positif, ils essaient directement sur l'homme, puisque les traducteurs praticiens l'utilisaient déjà chez l'homme. Donc, c'est l'option qu'on a prise maintenant avec un certain nombre de collègues. On a formé une association. On va peut-être sortir les premiers produits dans moins d'un an.
On va
prendre
ça en officine.
Oui, bon, il y a un problème à la direction de la pharmacie des médicaments. Ils disent qu'il n'y a pas de loi concernant les produits à base de plantes. Donc, ce qui fait que pour donner des agréments, le visa, c'est un peu de hasard, quoi. Donc, il y a des gens qui s'en vont directement dans les officines sans passer par la DPM. Il y a plein de médicaments à base de plantes qui sont sur le marché, qui n'ont pas reçu le visa.
Est-ce qu'on doit avoir le système? Il paraît qu'au Ghana, en pharmacie, il y a tout, il y a des médicaments européens, il y a des médicaments traditionnels. Est-ce que nous, on parle?
Je pense qu'il faudra mettre le micro éloigné parce qu'on est trop éloigné, donc on n'entend pas les virus dedans.
Je peux le tenir, non?
Ça va comme ça, on va le mettre.
Voilà, on le met là, sur le petit support.
Ça va? Comment ça va?
Donc, on va mettre quand même
vers
ici.
Ouais.
Wow. Excusez-moi. Donc, je demandais si nous, on pourrait avoir le système du Ghana.
Mais ce n'est pas du tout, pas du tout le même système. Le monopole pharmaceutique en France n'est pas le même genre dans les pays anglophones. Donc, si on va vers là-bas, on va... Je ne sais pas, on va peut-être aller vers la catastrophe, on va un peu voir de n'importe quoi. Bon, ce qu'il y a ici, ça marche coulpant, puis si on voit des médicaments sur le marché, qu'est-ce qu'on va passer par la DPM? Mais si on opte pour ça, encore, ce sera encore plus grave.
Non, mais là, peut-être qu'il faut innover dans le droit de la santé, peut-être. Et voir comment faire des conventions entre les deux types de...
Mais écoutez, c'est deux systèmes différents. Hein. Nous, bon, en tant que pays francophone, on va pas se mettre dans un petit coin là pour dire que nous on va innover, alors que les autres pays sont dans l'ancien système.
Ah, c'est ça. Donc il y a une unité quand même entre tous les pays francophones.
Voilà, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit, par exemple, une décision sous-régionale, au niveau du numéro ou des trucs comme ça.
C'est ça.
Pour que les gens se rencontrent, pour qu'on décide.
Oui,
oui, oui. Donc c'est un peu ça.
Et il y a des choses peut-être qui ont déjà été faites dans ce sens.
Ce qui est fait, c'est que bon, chacun, par exemple au Mali, les gens travaillent beaucoup sur les plantes. Bon, ils font des tests qui ne sont pas souvent profonds. Moi, j'ai lu les dossiers de médicaments issus de la médecine traditionnelle qui ont été commercialisés.
Ah oui.
Mais il n'y a pas tous les tests fondamentaux. Par exemple, la tolérance biologique, les gens ils n'en font pas cas. Alors que c'est important, quand tu prends un médicament, il faut savoir si ça n'a pas d'effet sur les reins, sur les foies et tout ça. Et ils ne font pas ça.
Ah oui.
Ils font la toxicité aiguë, la toxicité subchronique et puis c'est parti.
Ah oui.
Donc chaque pays a ses particularités.
Oui,
dans l'ensemble,
ça.
On travaille dans le même système. C'est-à-dire chez nous, bon, on défend, dans les pays francophones, on défend beaucoup le monopole pharmaceutique.
Oui.
ce n'est pas le cas dans les pays anglophones.
D'accord.
J'ai une question comme ça, peut-être c'est une question un peu, je ne sais pas s'il faut qualifier la question de banale, mais en fait j'ai entendu dire que les produits chinois par exemple ne sont pas des produits chimiques. On pouvait en consommer autant et puis ne pas avoir de problème de santé. Alors que les produits vendus en pharmacie suffisent seulement de dépasser la dose et puis vous pouvez aggraver votre situation. Je suis un spécialiste en la matière, je voudrais avoir plus d'informations.
Voilà. Écoutez, je crois qu'en Chine il y a une université. Tourner uniquement vers la plante, hein, une université. Donc, je veux dire, parce que je travaille avec les Chinois, on a un certain nombre de dossiers déposés à la direction de la pharmacie des médicaments concernant les produits chinois. Et justement, dans ces produits chinois, là, vous avez des produits à base de plantes que les gens ont mélangés. Oui.
C'est bon.
Bon, donc, dire que c'est des produits à base de plantes, c'est pas vrai. Hein. Les gens, il y a certains médicaments où on trouve des plantes mélangées à des molécules chimiques. Bon, nous, quand j'ai fait trier, j'ai dit que si on doit demander un visa pour ces produits avec des molécules chimiques, il faudra un dossier complet. Alors que les produits à base de plantes, on a besoin que d'un dossier allégé. Donc on a trié, on a fait un tri, on a eu environ 46 produits à base de plantes pour lesquels on est en train de travailler. On a déjà déposé 2 demandes de visa, non 6, on a demandé 6 demandes de visa. Dès que ce sera passé, on va continuer.
Est-ce qu'on pourra le commercialiser dans nos pharmacies, bien ils auront...
Oui, mais c'est pour ça qu'on a demandé le visa, mais apparemment la docteur Assis qui est là-bas là, ne s'en pas pressé parce qu'on a déposé le dossier, ça fait déjà... 4 ou 5 ans.
C'est beaucoup, hein.
Ouais. Donc, j'ai mis ça dans le tiroir. La dernière fois, quand le nouveau ministre est venu, il pensait qu'on allait me nommer, donc ils sont sortis là, voilà, marcher, tout ça. Quand c'est passé, donc.
Je ne sais pas si c'est par peur de concurrence qu'il ne veut pas examiner votre dossier, mais qu'est-ce qui se passe, en fait?
Disons qu'avant même que Yassine ne soit nommé, quand j'ai discuté avec elle, elle n'était pas chaude pour qu'on commercialise des produits chinois ici. Alors qu'en fait, on les trouve dans toutes les, au niveau de la rue, partout. Et ce que je sais, c'est qu'il y a un antagonisme entre Chinois. Ceux avec qui je travaille voudraient travailler dans la légalité. Donc c'est pour ça qu'ils ont confectionné un dossier pour avoir des agréments. Alors qu'il y a d'autres qui font venir des tonnes. Qui sortent ça de la douane avec la complicité de la DPM. Mmh. Bon, je ne sais pas ce qu'on leur donne, mais c'est comme ça.
Donc, je me demande si, enfin, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, parce que je ne connais pas, mais il doit y avoir une organisation ici qui s'occupe de faire entrer les médicaments, les stocker, gérer ce stock. Est-ce que cet organisme-là dépend beaucoup, de, par exemple, de la France? Est-ce qu'il y a une question de politique étrangère qui vient se mêler à tout ça, ou bien...
Non, c'est... Bon, l'organisme habilité à importer les médicaments, c'est la pharmacie de la santé publique.
Oui. Ah,
ouais. Bon, en dehors de ça, vous avez les pharmacies privées qui importent les produits.
Directement, elles-mêmes?
Oui, elles peuvent importer directement ou passer par des grossistes, passer à des grossistes sur le marché.
Ah,
vous avez
d'accord.
La Borès, vous avez des PCI, qui ont des centrales d'achat en France.
Ah oui.
Donc,
docteur, est-ce que pour les analyses, pour l'expertise, est-ce qu'on a assez de machines? Parce que comme on voit en Europe, les pharmacies, les industries pharmaceutiques, ils ont pas mal d'appareils. Est-ce que nous, on a assez de technologie là, ici?
Oui, mais ça dit que, justement, la question s'était posée à Yamsokro. Il se trouve que ce qu'on peut faire ici, c'est bon, l'équivalence au niveau pharmaceutique, c'est-à-dire... On ne peut pas faire, actuellement on ne fait pas la thérapeutique. C'est-à-dire quand vous recevez un nouveau produit, il faut vérifier, il faut doser si effectivement les sont dans le médicament et à la dose indiquée. Donc au laboratoire national, on fait le dosage. Maintenant après ça, il faut faire des essais cliniques. Et ça on ne le fait pas avant d'obtenir le visa.
Nous à la fac, nous on voulait faire les TP de pharmaco avec les lapins et celui. Surtout pour ceux quand même qu'il n'y a pas assez de occupants.
Oui, oui, oui. Ça veut dire que d'abord, les appareils, parce qu'ils ne sont pas entretenus, sont hors d'usage, mais c'est surtout le nombre d'étudiants. Parce que dans les années 80, on avait en cinquième année 9 à 10 étudiants. Mais actuellement, on est près de 200. Bon, avec 9 ou 10 étudiants, quand tu vas travailler sur des sourds de la paix, par exemple, il faut au moins des lots par groupe de TP. On prenait une centaine de souris, ça peut aller, mais il faut multiplier par chose.
C'est dommage parce que la pharmaco nous intéresse.
Oh, je vous connais, hein, parce que quand on faisait les TP, les femmes n'aiment pas toucher aux animaux. Ça.
Hein? Elles sont trop sensibles.
Oui, elles sont trop sensibles.
Mais on a l'impression que si on a fait la pharmacologie, il faut aller en Europe. Parce que ici, bon, plus on n'a pas fait les TP, ça fait que les étudiants ne s'orientent pas trop en pharmacologie. Donc,
Même avant, ça dit que la pharmacologie, c'est très accrocheur quand tu exposes. Mais quand tu dois faire la pratique, les gens sont souvent rebutés. Quoi. À la recherche, il faut travailler sur les animaux. Bon, les gens n'aiment pas beaucoup ça. Sinon, c'est intéressant. Toutes les femmes, bon, c'est souvent Digbe, mais c'est Digbe, le garçon de laboratoire qui travaille pour elles. Elles sont là, elles ne peuvent pas toucher.
Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut continuer ici ou bien il faut aller forcément en Europe? Est-ce que quelqu'un qui veut faire la pharmacologie?
Dans tous les cas, c'est pas la pharmacologie seulement. Même quand vous faites la chimie, quand on fait la matière médicale, vous êtes obligé d'aller là-bas.
Mais ici, il y a des CES ou bien des DES en pharmacologie. Est-ce qu'il y a une possibilité de continuer en pharmacologie ici?
Non,
On peut le faire.
Il y a un 2S,
c'est bien.
Non, il y a un 2A.
Un
2A.
Ah
ouais.
Comment ça s'appelle?
C'est la 2A, c'est le 2A de choses de pharmacie. Là. Ça regroupe un peu tous les départements. Mais là, après, il y a des options. Ceux qui font option chimie, ceux qui font option pharmacognosie. Donc, c'est un 2A tronc commun. Mais sur le plan de recherche, ça varie.
Il y a un 2A pharmacopée africaine.
Oui, mais c'est ça, le 2A de pharmacopée. Ouais,
c'est la même chose.
Oui, c'est ça. Bon, disons que aussi il y a. Quand vous voyez jamais, les gens ils ont créé une filière des scientifiques. Hein, c'est des scientifiques, puis ils ne sont pas des pharmaciens. Ils font ça. Je suis allé donner quelques cours là-bas. Donc, moi, comme je n'aime pas tellement l'enseignement, je n'ai pas continué.
Vous avez mis la recherche.
Oui, moi j'ai fait la recherche.
À propos de la recherche,
ouais.
Est-ce que vous avez un centre ou bien un laboratoire qui s'occupe de la recherche pour la recherche trouver un remède pour le sida, par exemple?
Oui, mais écoutez, nous, moi-même, on est dessus. On a. Disons que la recherche sur le sida, ce n'est pas comme la recherche habituelle, parce que c'est un traitement antiviral. Bon, donc, pour faire la recherche fondamentale, il faudrait cultiver le virus. Ça, on ne peut pas le faire, donc on travaille directement sur l'homme. Sinon, il y a beaucoup de recettes en médecine traditionnelle censées traiter le sida. Mais quand tu utilises, bon, on sent vraiment qu'il y a une remontée des mécanismes de défense. Et ça s'arrête là. On n'a pas encore de recette qui tue vraiment le virus. Et même en médecine moderne, on n'a pas d'appareil pour mesurer qu'il y a vraiment plus de virus dans le sang. Il y a la charge virale. Mais les appareils qu'on utilise ont un seuil de sensibilité. C'est-à-dire si le nombre de virus qui est dans l'organisme descend en dessous de ça, l'appareil ne peut pas mesurer. L'appareil te dira qu'il n'y a plus de virus. Alors qu'en fait, il n'y a pas de virus. Donc, c'est une question de sensibilité.
Et pour la recherche, en général, vous la menez avec des étudiants des années supérieures ou est-ce que vous faites des équipes, par
non,
exemple?
Non, je fais ma recherche. Nous, on fait nos recherches personnelles. Hein. Il n'y a pas d'étudiants avec nous.
Ah bon.
Non, non, il n'y a pas d'étudiants.
Mais pourquoi on n'associe pas les étudiants? Je peux savoir, peut-être c'est... Pourquoi vous n'associez pas les étudiants à votre recherche? Généralement, chez nous, dans certains départements, les professeurs aiment créer des laboratoires de recherche, c'est-à-dire des étudiants.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des recherches sur lesquelles on peut brancher des étudiants. Mais si tu ne veux pas que ta recherche soit, les résultats soient publiés, tu ne veux pas associer des étudiants.
Ça c'est. Et souvent, ça parle, les étudiants, ça parle un peu trop.
Non, c'est pas ça. Parce qu'un étudiant qui vient travailler, c'est pour soutenir sa thèse. Or, une thèse est considérée comme une publication.
Mais en fait, ça vous pourra nous associer à quelque chose, à part les thèses.
Mais vous avez besoin de votre thèse, vous allez faire quoi d'autre?
On fait aussi la recherche. Parce que quand il y a les découvertes, par exemple, on dit tel est collaborateur. Quand on est plus collaborateur, c'est qui?
Oui, mais ça dit que c'est des gens qui travaillent pour leur promotion. Les étudiants, les assistants, travaillent pour leur promotion. Donc, les résultats de leur recherche sont appelés à être publiés. C'est pour ça qu'on dit telle personne, quand c'est dans les publications que vous voyez ça, ou en dehors de ça. Si vous ne voulez pas que vos résultats soient publiés, vous ne pouvez pas parler de collaborateurs comme ça.
Et parce que moi, je ne me rends pas compte. Qu'est-ce qui peut faire qu'on veuille publier un résultat ou bien ne pas le publier?
Mais c'est ce que je vous dis. Vous, quand vous passez, par exemple, pour passer vos thèses,
oui.
Vous avez besoin de sortir vos résultats, de soutenir votre mémoire.
Voilà.
La soutenance est publique, est considérée comme une publication.
Oui.
Donc, vous ne pouvez pas dire pourquoi vous n'avez pas publié.
Voilà, ça, je comprends très bien.
Maintenant, si vous êtes, vous voulez rester dans la recherche, il faut évoluer. Il faut attacher des recherches, mettre des recherches, machin, tout ça.
Oui.
Et c'est sûr, au fil des publications.
Oui.
Bon, si vous ne publiez pas, vous ne pouvez pas avancer.
C'est ça.
Non, c'est ça.
Oui. D'accord.
Vous aimeriez changer de sujet. Je voulais parler de pharmacovigilance.
Oui.
Bon, en Côte d'Ivoire, comment ça se passe en pharmacovigilance? Parce que actuellement, je fais mon stage en gastro au 11e.
Ouais.
Et deux fois, les professeurs échangent, enfin, dans le service, les professeurs et les assistants échangent. Et ils nous laissent participer.
Mm.
Donc, comme on est des étudiants en pharmacie, des stagiaires, ils nous laissent parfois participer. Et une fois, ils nous ont dit qu'ils avaient remarqué que les dérivés de la thémisinine aggraver l'encéphalopathie.
Les dérivés de quoi?
Les dérivés de la thymidine, etc. Ouais. Qu'il y avait une atteinte, ils aggravaient les atteintes hépatiques.
Mm.
Bon, ça faisait qu'il y avait un problème. Pourquoi? Parce que lorsque une personne a le paludisme, bon, il n'y a pas de problème, ça soigne le palu et ils n'ont pas remarqué les conséquences au niveau du foie.
Mm.
Mais lorsque la personne pensait avoir le palu, oh, c'était l'hépatite, que ça causait déjà une atteinte au niveau du foie.
Mm.
Si la personne, pensant que c'est le palu, prenait l'artémitaire, bon, automatiquement c'était une aggravation de l'hépatite et ça entraînait des complications au niveau du foie. Et dans beaucoup de cas, la personne meurt. Donc ça crée une intoxication. Or, beaucoup de fois, on pense d'abord au palu lorsqu'on a l'hépatite et on soigne un palu. Donc ça faisait qu'il y avait beaucoup de cas graves qui rencontraient. Bon, face à ça et puis face à d'autres situations de ce genre, qu'est-ce qu'on fait en Côte d'Ivoire par rapport à la pharmacovigilance?
Mais il y a un service de pharmacovigilance qui est logé à la direction de la pharmacie de médicaments, DPM. C'est le professeur Yago qui s'occupe de ça. Bon, je ne sais pas s'il est au courant. Si effectivement, parce que en principe, il doit mettre sur pied un réseau d'informations, d'informateurs. Il y a CHU dans la formation sanitaire pour que les observations soient notifiées. Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas.
Yavo,
c'est Yavo. Il est professeur en chose, au département de pharmacologie, fac de médecine.
Merci. Ça, c'est pas une pharmacie.
Écoutez, ça, c'est la politique. Hein, vous voulez que je vous dise quoi?
C'est la moindre chose.
Un médecin à la direction de la pharmacie des médicaments, c'est quand même rare. Comme ici, c'est les politiciens qui nous font.
Mais vous ne menez pas vos enquêtes sur votre pharmacovigilance, pas forcément nationale, ou bien est-ce que vous avez vous menez des travaux aussi là-dessus?
Parce que pour faire la pharmacovigilance, il faut avoir les moyens. Il faut avoir des objectifs. Bon, même si on le faisait à titre personnel, on va faire quoi des résultats? Parce que la pharmacovigilance, c'est tout un système. Il y a des réseaux qui sont reliés entre eux. Tu vas venir te greffer sur ça alors qu'il y a un département qui s'occupe de ça. C'est un peu du travail inutile. Les gens, ils sont payés pour faire ça. Si on vous associe au réseau, d'accord, mais on ne peut pas vous lever comme ça pour dire je vais faire de la pharmacovigilance. Et puis les résultats que vous allez trouver, il faudrait que dans la littérature, on sache que ces résultats ont été trouvés ailleurs. Si c'est le premier résultat, il faudrait mener des enquêtes. Si ce n'est pas une erreur, si c'est. Il y a plein de trucs qu'il faut faire. Donc on constate que l'artémisinine aggrave l'hépatite. Bon, est-ce que ça a été observé ailleurs? Bon, si ça n'a pas été observé ailleurs, il faut relier l'aggravation de l'hépatite à la prise effective de l'artémisinine. On appelle les tests d'imputabilité. Donc il y a tous ces machins à faire. Tu vas de dire qu'on a observé. On a observé. Est-ce que le malade avait des prédispositions? Est-ce que le malade a pris autre chose? Est-ce que quand on a arrêté de prendre l'artémisinine, l'état s'est amélioré? Il y a tout un système qui va mettre en place.
Et à la pharmacie aussi, une des responsables, comment ça se passe? La surveillance? Est-ce que vous l'avez...
On ne nous a pas associés. On ne nous a pas encore associés. Bon, Yavo m'en avait parlé comme ça, mais... On n'a pas encore été associés.
Et je voulais vous demander aussi, en parlant de la recherche, comment vous ressentez le manque de moyens dans les pays africains puis en Côte d'Ivoire?
Vous voulez que je ressente la forme?
Que vous nous expliquiez un peu comment ça se traduit dans la vie.
Mais écoutez,
chercheur.
Si vous n'avez pas les moyens de recherche, vous asseyez. Ça veut dire qu'en Afrique, les gens, ils ont d'autres priorités. Ce qui ne fait pas rentrer l'argent immédiatement, ça ne les intéresse pas. Donc, il y a deux ou trois ans, sur des projets, les appareils nous ont été livrés. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de maintenance. Donc ces appareils-là, certains sont restés dans le carton. Vous voulez qu'on fasse quoi?
Oui, c'est ça.
Et quand on va former des gens, bon, quand ils arrivent, ils sont à la fonction publique, un ou deux ans, ils s'en vont se chercher ailleurs.
Oui. Ça, c'est le budget que l'État attribue donc à la recherche. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire des partenariats entre des équipes, des laboratoires, bon, d'ici et puis des pays du Nord, directement, sans passer par l'État?
Non, mais ça existe.
Ça existe
déjà. La plupart des laboratoires travaillent en collaboration avec leur département d'origine. Par exemple, on travaille beaucoup à Montpellier. La plupart de nos étudiants ont fait leur thèse là-bas.
Ah oui.
Ouais. C'est quand même pas l'idéal parce que quand ils rentrent, ils sont là, ils ne peuvent plus travailler puisqu'ils n'ont pas les moyens.
C'est ça. Donc
tous les trois mois ou bien une fois. Trois mois d'année, ils sont obligés d'aller là-bas pour faire avancer un peu leur travail.
Ah oui.
Voilà.
Quelles sont les qualités de que un pharmacologue doit avoir? Ou bien quelles sont les aptitudes qu'un pharmacologue doit avoir?
Il faut préciser votre question parce que.
Bon, pour faire des.
Les qualités par rapport à quoi?
Par rapport aux études. J'ai l'impression que la pharmacologie implique beaucoup de statistiques, de mathématiques.
Mais c'est toutes les. C'est la biologie en général. La biologie, c'est pas la pharmacologie seulement. Tout ce qui a rapport à l'homme, à l'être humain, à l'être vivant, a besoin de statistiques, puisque chaque être humain est individuel. Donc pour avoir un résultat, il faut au plus un résultat d'être différent. Pour faire la moyenne, faire la statistique, pour voir éventuellement si ça tient ou bien si ça ne tient pas.
Mais c'est dans vos cours, souvent que nous on a remarqué que même pour savoir la biodisponibilité des médicaments, il y avait toutes sortes de calculs à faire. Bon, lorsqu'on était dans les autres matières, à part la thèse où il faut faire des études statistiques, pendant les cours, c'était bon, uniquement la biologie, la parasitologie, il fallait apprendre les cours par cœur. Mais c'est en pharmacologie qu'on a vu qu'il y avait l'étude, les cours de calculer la biodisponibilité dans tel compartiment de l'organisme. Bon. Donc, je voulais savoir, est-ce que pour les études plus poussées, il fallait avoir aussi des notions dans d'autres matières?
Disons que la pharmacologie, c'est un peu au carrefour de beaucoup de disciplines. Hein. Vous avez la chimie, vous avez la physiologie, vous avez les disciplines médicales en général, parce que la biologie, parce que tout ce que vous dites là, la biodisponibilité, ça implique beaucoup de choses. Ça implique que vous connaissez un peu en hématologie, en système cardiovasculaire. Donc, ça, il faut avoir des notions. Quoi.
Donc, pour faire la pharmacologie, il faut avoir des
CES
dans les
autres. Oui, si vous avez des CES, ça peut vous avancer, mais dans les études même, on vous apprend, par exemple, quand vous faites les cours de pharmacologie, on a oublié de faire allusion à la physiopathologie. La physiopathologie, ça veut dire que vous avez appris la physiologie. Donc, la physiologie est nécessaire pour un pharmacologue. Donc c'est pour ça que chaque fois je vous dis, bon, c'est supposé connu parce que ça c'est de la physiologie. Bon, il y a la physiologie qui est le normal, la normale, et puis il y a les perturbations de la physiologie qui constituent la pathologie.
Si tu n'as plus de questions, on va arrêter. Merci beaucoup.